Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Ignacio Agüero. Ça a vraiment été pour nous un plaisir et un honneur de l'avoir avec nous toute cette semaine. Et puis de pouvoir voir ou découvrir ses films, ça a vraiment été, je crois, une découverte pour beaucoup. Je voudrais peut-être commencer cette rencontre en évoquant quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais ça me semble important de commencer par ça, parce que c'est un élément assez structurant qui cimente ton œuvre, c'est ton rapport à l'architecture. Et peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais tu as commencé, avant de faire des études de cinéma, tu as commencé en faisant des études d'architecture.
Sí, muy bien. Buenos días. Muchas gracias por venir. Gracias, Nicolás Muriel. Bueno, para mí también ha sido una semana muy intensa y muy rica, especialmente por las preguntas del público luego de las exhibiciones. Eso es muy estimulante, hace pensar sobre mis propias películas y me abre zonas nuevas sobre las que puedo ver cosas que no había visto en mis propias películas.
Bonjour et merci beaucoup d'être là ce matin. Pour moi aussi, ça a été une semaine très intense et très riche. Et en particulier, grâce aux échanges qu'il y a eu avec le public après les projections. Et c'est quelque chose qui était très stimulant pour moi parce que ça m'a permis de réfléchir à mes propres films et aussi de penser aux films qui viendront.
También es muy agradable la ciudad y el emplazamiento del festival que uno camina muy poco entre una sala y otra. Hay un diseño espacial del festival que es ideal.
Et aussi la ville est très agréable et l'emplacement du festival est très bien pensé puisqu'on marche très peu entre une salle et une autre et donc ça c'est très très agréable.
También el mar y el surf que he tenido algún tiempo de mirar también tiene mucho que ver con el cine. Creo que un cineasta es también de algún modo un surfista. En mi caso creo lo he relacionado al hacer las películas. Por supuesto que hago no solo surf sino también slalom.
Et j'ai beaucoup apprécié aussi la présence de la mer et du surf. J'ai pu aller observer un peu les surfeurs. Et je pense, en tout cas dans mon cas, les cinéastes sont aussi des surfeurs. Ou en tout cas, moi, quand je fais un film, parfois je surfe et parfois je slalome.
La ciudad, siempre viví en Santiago. Y por supuesto, la ciudad siempre me marcó, ¿no? La posición de la cordillera de los Andes frente a Santiago y la forma como la ciudad fue creciendo muy notoriamente durante mi vida. Entonces presencié cómo se demolían barrios enteros y crecían nuevos edificios, todo eso me hacía pensar mucho en el lugar en el que se habita y también el darme cuenta que la ciudad es la expresión de la cultura, ahí está escrito, en las calles, en los muros, en los edificios está escrita la cultura, de modo que una ciudad siempre está ahí para ser leída.
j'ai toujours vécu à Santiago, et c'est évidemment une ville qui m'a beaucoup marquée, beaucoup impactée, avec la cordillère des Andes qui surplombe la ville. Et j'ai pu voir la ville grandir, s'agrandir pendant tout au long de ma vie, des nouveaux bâtiments être construits, et ça nous pousse à réfléchir à l'endroit dans lequel on habite. Et en tout cas, je pense que la ville, c'est la culture, c'est l'expression de la culture. La culture s'exprime sur les murs, s'exprime dans les rues, s'exprime à travers les bâtiments, et voilà. En tout cas, la ville, c'est la culture.
Et que la ciudad está ahí para ser leída.
Et que la ville est là pour être lue.
La verdad es que estudié arquitectura porque tenía miedo de entrar a estudiar cine. Tenía miedo de hacer películas. Entonces quise demorar un poco ese momento y di la vuelta por arquitectura.
Et donc j'ai étudié l'architecture, mais en fait je pense que c'est parce que j'avais peur de faire des films et que ça m'a permis de retarder un peu ce moment, de faire un petit détour.
Dans un entretien que tu as accordé à des étudiants chiliens cette année, tu dis que ta véritable école de cinéma, ça a été la maison dans laquelle tu as grandi. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu en quoi ça consistait, cette école de cinéma dans ta maison?
Es muy interesante eso, en verdad. El darme cuenta después de mucho tiempo de esa escuela. El fascinante reconocerlo. Vivía en una casa grande de 3 pisos. Tenía un subterráneo. Las ventanas miraban a este, oeste, norte y sur. Había vistas hacia la cordillera, hacia las casas vecinas, hacia los patios de las casas vecinas. Entonces había una visión general muy lejos y muy cerca, y también ventanas que daban a casas que estaban muy cerca. Entonces yo podía mirar por la ventana de las otras casas.
Donc, ouais, c'est quelque chose de très intéressant de, a posteriori, se rendre compte quelle a été notre école de cinéma, et c'est vraiment fascinant quand on s'en rend compte. Moi, j'ai grandi dans une grande maison qui était sur 3 étages, où il y avait aussi une cave, et les fenêtres de la maison étaient orientées au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc il y avait tous les points de vue possibles. On pouvait voir la cordillère, donc on pouvait voir au loin. On avait aussi certaines fenêtres qui donnaient sur les maisons voisines, sur les patios des maisons voisines, donc on pouvait à la fois voir au loin et voir proche, et on pouvait même voir très proche, puisqu'il y avait certaines fenêtres où il y avait un vis-à-vis très très direct, et je pouvais voir à l'intérieur de chez les voisins.
Entonces, en la propia casa ofrecía de inmediato la escuela del encuadre, el saber que las cosas ocurrían dentro del encuadre de las ventanas, pero también inmediatamente uno sabía que empezaban a ocurrir otras cosas fuera del encuadre. Esa era una escuela permanente. Luego estaban todos los planos, el gran plano general, el plano cercano, y también la posibilidad del voyerismo sobre las vecinas, sobre todo.
Et donc cette maison m'a offert la possibilité d'apprendre le cadrage, puisque j'ai très vite compris que énormément de choses se passaient dans le cadre des fenêtres, mais qu'il y avait aussi énormément de choses qui se passaient en dehors de ce que je voyais, en dehors de ce cadre. Et donc ça a été ma première école pour apprendre à comment faire un cadrage. Et il y avait aussi, c'est là aussi que j'ai appris les différents plans qui peuvent exister, plan général, plan rapproché. Et j'ai aussi appris sur le voyeurisme, en particulier des voisines.
También era la posibilidad de escuchar distintos mundos dentro de mi propia casa. Había como un departamento para la servidumbre. Esta era la casa de mi abuelo, que era un mundo que se podía mirar también desde un vidrio que había en un techo. Luego uno escuchaba los mundos de las distintas habitaciones de mis hermanas y hermanos. Había mucha posibilidad de espionaje. El mundo de mi abuelo también. Bueno, todo esto con muchos detalles, que la verdad que podría hacerse una película sobre la casa y todos los mundos, pero también estaba esa escuela de la observación de los acontecimientos simultáneos en un mismo espacio.
Et il y avait aussi la possibilité d'écouter plein de mondes, plein d'univers différents à l'intérieur de notre maison, puisqu'il y avait une partie où logeaient les domestiques, il y avait la partie où logeait mon grand-père, et là je pouvais aussi voir depuis une partie du toit, je pouvais voir chez lui, et il y avait évidemment les chambres de mes frères et sœurs. Et donc il y avait une infinité de possibilités d'espionnage, de voir tous les petits détails. Et je pense qu'on pourrait faire un film là-dessus aussi, sur comment est-ce que dans un même espace cohabite une multitude, une infinité de mondes et de simultanément tous les événements qui se passent simultanément dans un même endroit.
Il y a un lieu qui est aussi très important et qui apparaît très tôt dans ton œuvre, dans ton court-métrage Hoy es Jueves Cinematográfico, c'est évidemment la salle de cinéma, qui est à la fois un refuge à la dictature et un moyen de s'évader. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi plus tard dans tes autres films que tu filmes chez toi, où la maison est toujours liée aussi à l'extérieur. C'est à la fois un refuge, quelque chose de très personnel et d'intime, mais c'est aussi quelque chose qui permet d'accéder à l'extérieur et au lointain. Ce qui est en soi peut-être une définition même du cinéma.
Bueno, es verdad que la primera película que hago es Hoy es Jueves Cinematográfico, que ocurre todo dentro y fuera de una sala de cine. El acontecimiento es el cine, la muestra de una película, y todo el mundo gira en torno a eso. Es como que eso fuera el mundo y la vida. Y esa primera película es, claro, un refugio a lo mal que estábamos viviendo en ese momento en Chile, en los primeros años de la dictadura, donde era muy asqueroso la situación. Entonces el cine ahí era un refugio y naturalmente me salió hacer esa película, ¿no? Pero luego, en verdad, el cine ha estado dentro de mis películas de un modo evidente, con niños mirando películas o referencias directas a películas, hasta en la última, ¿no? nunca subí el provincia, donde hay niños viendo a Chaplin. Eso perfectamente podría no estar en la película, no es necesario para la película, pero está y tiene que estar. Es como crear esa relación, una relación íntima y casi ya natural entre las personas y el cine. Es decir, que eso es inseparable. Y por eso está entonces en la película, ¿no? Y hay ahí un homenaje a Chaplin, porque esos rodajes ocurren exactamente a los 100 años de la película El Inmigrante, como una investigación sobre Chaplin, si hace reír a los niños de hoy. Y bueno, pudimos ver que eso existe vivo como en el primer día del cine.
Donc c'est vrai que le premier film que j'ai fait, le premier film que j'ai réalisé, qui s'appelle Hoy es Jueves Cinematográfico, se passe entièrement à l'intérieur et à l'extérieur d'une salle de cinéma. Et l'événement, c'est la salle de cinéma, c'est le fait qu'un film soit projeté. Et c'est comme si tous les personnages et le monde tournaient autour de cet événement-là, de ce fait-là. Et dans ce cas... ce film était un refuge parce que c'était les premières années de la dictature et tout ce qu'on vivait en dehors de ça était vraiment immonde, et le cinéma c'était donc un refuge, et ça a été un véritable plaisir de faire ce film en ce sens-là. Et ensuite je pense que le cinéma est rentré plus directement dans mes films, que ce soit par exemple dans Cien niños esperando un tren, où c'est un atelier de cinéma pour enfants, ou même par exemple dans mon dernier film Nunca subí el provincia, où on voit des enfants voir un film de Chaplin. Et cette scène, elle pourrait ne pas être dans le film, c'est pas nécessaire à la narration, mais elle y est, et en fait elle est nécessaire au film, parce que je pense qu'elle montre cette relation intime et presque naturelle entre les personnes, les personnes et le cinéma. Et c'était aussi ma manière de rendre hommage à Chaplin. Et c'était pour les 100 ans du film L'immigrant. L'immigrant, c'est ça le titre français ? Le pèlerin ? L'immigrant, bon, voilà. Et donc c'était aussi une manière de faire une petite recherche sur Chaplin et de se rendre compte que 100 ans plus tard, il fait toujours rire les enfants comme au premier jour.
También creo que la presencia del cine dentro de mis películas tiene que ver también con asumir que yo soy cineasta, y eso no lo oculto, sino que lo comparto con el público como el privilegio de ser cineasta.
Et je pense que la nécessité d'inclure le cinéma dans mes films vient aussi du fait que je ne veux pas cacher que je suis cinéaste, que je veux plutôt le partager avec les spectateurs.
Peut-être pour en terminer avec cette histoire d'architecture et cinéma, il y a cette relation très forte dans ton dernier film, donc Nunca subí el provincia, où avec cette scène où tu dis que les habitants donc de cet immeuble qui a été construit au-dessus de la boulangerie, tous ces habitants-là ignorent complètement ce qui est arrivé au boulanger qui a disparu. Tous les habitants d'un immeuble qui ne savent pas que finalement tout l'immeuble est construit sur une ancienne boulangerie, que le boulanger a disparu. C'est évidemment une référence aux disparus de la dictature, puisque tu enchaînes presque aussitôt après avec les bombardements du Palacio de la Moneda. Et je me demandais s'il n'y avait pas, si finalement, parce qu'on voit pas le... On ne voit pas le Palacio de la Moneda détruit, on voit juste les avions. Et j'ai l'impression que cette image même du Palacio de la Moneda, est-ce que ce ne serait pas l'image un petit peu originale de ton cinéma, avec toutes ces maisons qu'on voit détruites? Et qui finalement viendrait remplacer cette image-là, manquante, qui serait celle du Palacio de la Moneda détruite.
Esa imagen del el bombardeo sobre la moneda es una imagen que también yo, por lo menos, y tanta gente lleva consigo siempre. Es una imagen muy fuerte y expresiva, y uno puede decir que es la imagen de Chile. Esa es la imagen que uno tiene, que uno guarda, porque es muy, muy contundente, ¿no? Y es expresiva de, bueno, de la lucha histórica en Chile, pero es también la expresión de la lucha histórica de todos los pueblos en todos los lugares, ¿no? La lucha del pueblo por conquistar sus derechos y el fracaso de esas luchas con la acción violenta de los poderosos. Eso también está en la historia de todo el mundo. Entonces es una imagen muy, muy expresiva de lo que es la humanidad y el ser humano, y toda la experiencia de dolor que hay detrás de esa imagen, y también, bueno, es una imagen que sintetiza mucha vida y muerte. Entonces, sin embargo, esa imagen está en la película La Batalla de Chile, gran película, también tan poderosa como esa misma imagen, ¿no? Entonces, a partir de que está ahí, no hace falta que esté en ninguna otra película. Sin embargo, está, como tú dices, Nicolás, esa imagen está en esta última película, está en off. Y también es una expresión de la ciudad. En verdad, ese hecho de un edificio que sepulta a un panadero del cual nadie sabe nada después de que ha abandonado el lugar y que ha muerto, no se le conoce ni siquiera el apellido. Nadie de los que habita el edificio sabe de su existencia, no se sabe. Es, bueno, alguien que desapareció. Y eso, por supuesto, acompañado en otras lugares de la película, de los aviones de la moneda que bombardearon la moneda y el ruido de las bombas sobre el barrio, bueno, es por supuesto una referencia a que en un mismo barrio, en el lugar donde uno vive, está presente todo está presente en el entorno donde uno vive. Entonces, perdona.
En effet, je pense que cette image du bombardement du palais de la Moneda, elle est à l'intérieur de moi, elle continue, elle est en permanence à l'intérieur de moi, et c'est une image que beaucoup de Chiliens vivent quotidiennement. Si je permets une note en plus, ça ne va pas le faire. C'est parce que c'est une image très forte, très, très expressive, et on pourrait peut-être même dire que c'est l'image du Chili qui est vraiment très, très forte, très puissante, et qui pourrait aussi représenter la lutte du peuple chilien, mais la lutte de tous les peuples qui se battent pour défendre leurs droits contre les puissants et qui échouent contre les puissants qui sont plus violents et plus puissants. Et je pense que c'est aussi l'image, l'expression même de ce que pourrait être l'être humain, en fait. Et toute l'horreur qu'il peut y avoir aussi dans l'humanité peut se condenser dans cette image-là. Et en tout cas, pour moi, elle synthétise vraiment la vie et la mort. Cette image du bombardement, elle est dans le film La Batalla de Chile, qui est un très très grand film. Et à partir du moment où elle existe dans ce film-là, je pense qu'elle n'a plus besoin d'être dans aucun autre film. Moi, je l'ai quand même intégrée dans mon dernier film, mais uniquement la bande-son, uniquement les bruits en voix off, les bruits des bombardements. Et pour moi, c'est aussi une manière d'exprimer ce qu'est la ville. Cet immeuble dans mon film, où on ne sait pas ce qui s'est passé, où on ne connaît même pas le nom de cette personne qui a disparu, on ne sait pas s'il est mort. Et il a simplement disparu. Et pour moi, c'est très significatif aussi de ce qu'est vivre en ville. Et c'est pour ça que le bruit des bombardements des avions les avions qui ont bombardé El Palacio de la Moneda ont continué de résonner et résonnent dans ce quartier.
Y ahí entonces está esa cuestión del cine tan maravillosa que puede hacer que desde la ventana de una casa se pueda tomar contacto con todos los temas del mundo.
Et c'est là que se repose la question du cinéma et le merveilleux qu'est le cinéma, parce qu'il permet que à travers la fenêtre d'une maison, on puisse entrer en contact avec tous les sujets possibles du monde, tout ce qui peut se passer dans le monde.
J'aimerais à présent aborder ta pratique du cinéma, c'est-à-dire comment tu envisages, comment tu tournes tes films. Et dans, par exemple, dans Nunca Subir Provincia, au début du film, tu dis... En voix off, on t'entend dire « Hoy haré cazuela, hoy filmaré el zapatero ». Le fait de faire de la cuisine et de tourner une séquence sont associés directement. Et donc, le fait de faire un film, de tourner, c'est quelque chose que tu conçois comme quelque chose de quotidien, de...
Sí, en verdad es un afán. Ahí hay una frase que dice: el día está para cazuela, cazuela o sopa de choros, porque está nublado, dan ganas de comer cazuela o sopa de choros. Decir eso en un plano deja establecido de inmediato que importa mucho el momento del presente, de un plano que no lleva necesariamente a ninguna parte, más que a estar ahí, en ese momento. Hay una declaración del valor del presente, de que no es necesario y que se puede hacer películas con eso. No es necesario un bombardeo de la moneda o la caída de las Torres Gemelas o un gran acontecimiento para hacer una película. Basta hacer una película con lo que está ocurriendo en un momento, aunque en ese momento no ocurra nada más que vivir. Entonces hay ahí una pequeña declaración de principio en ese plano, el valor del presente y el valor o la no necesidad de avanzar en una historia, de no tener la obligación de la historia, que es contar una historia. Es una, es por decirlo, un modo de decir que no es necesario decir nada en el cine, o digamos, entregar ninguna lección a nadie, sino que desarrollar lo que está cerca de uno y trabajar con las percepciones.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette phrase dans le film où je dis que aujourd'hui c'est nuageux et que j'ai envie de manger un cazuela. Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être un plat. Un pot-au-feu, voilà, merci. J'entends pas du tout. Voilà. Bref, en tout cas, mettre ça dans un plan et dire ça dans un plan, c'est déclarer que le moment présent, c'est ça, c'est l'importance du moment présent. Et que ce plan-là ne va mener à rien, d'une certaine manière, simplement au fait d'être ici, là et maintenant. Et c'est une déclaration de la valeur, une reconnaissance de la valeur du moment présent, et qu'on peut aussi faire un film avec ça. On n'a pas besoin d'avoir que de grands événements se passent, il n'y a pas nécessairement besoin que le Palacio de la Moneda soit bombardé ou que des tours jumelles s'effondrent. On peut aussi faire un film avec ce qui se passe dans le moment présent et raconter tout simplement la vie, que tout ce qui se passe en ce moment, c'est la vie. Et donc c'est presque une déclaration de principe de l'importance du moment présent et de la non-obligation de la narration, de la non-obligation de raconter une histoire. C'est une manière de dire qu'on n'a rien besoin de dire et que on n'a pas besoin de donner des leçons ou d'essayer de faire passer des messages, mais qu'on peut aussi simplement se concentrer sur nos perceptions.
Quand on a présenté Nunca Subir Provincia, j'ai oublié de te demander depuis quand tu tournes ces plans de au coin, à côté de ta maison, au croisement de ces deux rues qui jalonnent tout le film, et donc petit à petit on s'aperçoit que cela fait de plus en plus long, enfin que cela fait depuis très longtemps que tu tournes ce même plan. Depuis quand exactement tu as pris l'habitude de venir à ce croisement filmer ce croisement? Et si depuis le début il y avait l'idée d'en faire un jour peut-être un film?
Desde 1995, desde que llegué a vivir a esa casa, tenía una cámara muy pequeña, Handycam. De cinta, y con esa cámara salía a grabar, a filmar la esquina, vecinos, conversaciones con personas y dentro de mi casa también, pero nunca era material para una película. No lo era. Era filmar solamente. El gusto de filmar. Y fue con la película el otro día, la primera vez que supe que ese material debía estar dentro de mis películas.
En fait, c'est depuis 1995, donc depuis que j'ai emménagé dans cette maison. J'avais à l'époque une petite caméra et j'ai commencé à aller filmer la rue, ce carrefour, mes voisins, les conversations que je pouvais avoir avec des personnes dans la rue. Et j'ai tourné aussi beaucoup à l'intérieur de chez moi, mais c'était juste pour le plaisir de filmer, pour ce geste. Mais je n'avais pas du tout l'intention que ces images iraient un jour dans un film. Et c'est quand j'ai fait El Otro Día que je me suis rendu compte que, en fait, c'était du matériel que j'avais besoin d'inclure dans mes œuvres.
Je m'aperçois qu'il est 11h moins le quart, il nous reste donc un quart d'heure. Je vais vous laisser le micro pour vous entendre, pour entendre vos commentaires ou vos questions pour Ignacio. Pas de questions. Oui, c'est monsieur.
Oui, buenos días. Si en su película como me da la gana dos. A cada realizador que filma usted le pregunta sistemáticamente su definición del cinematográfico, a qué sirve el cinema. Y le pregunto simplemente por qué esta pregunta.
Donc, dans votre film Como me da la gana 2, tous les réalisateurs que vous allez interviewer, vous leur demandez. Leur définition du cinéma, à quoi, qu'est-ce que le cinéma, et donc moi je me demande pourquoi est-ce que vous leur posez cette question.
Lo que yo pregunto es dónde, qué es lo cinematográfico de la película que están haciendo. Y yo pregunto eso porque es algo que me importa mucho, es algo que yo mismo me pregunto, es una pregunta que yo me hago a mí mismo. ¿Dónde está lo cinematográfico? ¿Dónde está el cine en lo que hago? Porque me parece una pregunta fundamental. Si uno hace cine, que es distinto a decir cosas o contar cosas o demostrar ideas. No, hacer cine es hacer cine. Entonces, yo ando con esa pregunta y en esa película lo que hago es compartir la pregunta con mis colegas cineastas. Entonces, como me da la gana dos, al mismo tiempo que interrumpo sus rodajes para hacer la pregunta, toda la película consiste en trabajar esa pregunta o trabajar la idea de qué se trata el cine.
Donc, la question c'est, que je leur pose, c'est où se trouve le cinéma sur le tournage qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qui est cinématographique dans le film qu'ils sont en train de fabriquer. Et en fait, c'est une question que moi je me pose en permanence, de où se trouve le cinéma dans ce que je suis en train de faire. C'est vraiment fondamental, puisqu'on fait des films, on raconte pas des histoires, c'est différent aussi de démontrer des idées, on fait des films. Et donc moi, c'est une permanence, c'est une question que j'ai en permanence avec moi, que je me pose en permanence, et que dans ce film, je décide de partager avec mes autres collègues cinéastes. Et j'interromps leur tournage, j'interromps les tournages, mais du coup ma réponse c'est ce film dans lequel je travaille cette idée de qu'est-ce que le cinéma.
Dans ce même film, tu intègres des images d'archives personnelles. On imagine que ce sont des images qui ont été filmées lors d'un séjour en Russie. Et on a l'impression que ce sont aussi des images qui, finalement, comme les plans du croisement dans Nunkasugel Provincia, sont des images qui n'étaient pas destinées à faire partie d'un film quand elles ont été filmées. Et finalement, est-ce que le cinéma, ça serait, l'image cinéma, ça serait pas finalement le non-intentionnel, l'absence de volonté de faire du cinéma qui, une fois, grâce après au montage, pourrait faire sens et cinéma?
Claro, y eso hace a esas imágenes muy inocentes, no tienen propósito. Eso es muy atractivo, creo que se siente, ¿no? Cuando la imagen no tiene el propósito de ser una narración, sino que simplemente existen, fueron capturadas y revelan un mundo. Las imágenes de Leningrado en ese tiempo son de 1989, antes de la caída del régimen de Gorbachev. ¿Cuándo cayó Gorbachev? Bueno, 89, bueno, son un poco antes. Y bueno, son, hay calles en Leningrado que se parecen a las calles de Santiago. Hay una iglesia, hay unas campanas que dialogan con las imágenes de mi barrio. Y de repente, al pasar de mi barrio a esas imágenes, se aceptan inmediatamente. Y entonces, claro, son imágenes que empecé a saber que tenían un lugar en mis películas. Y todavía tengo material que tiene que entrar en mis películas futuras.
Donc oui, je pense que c'est ça aussi qui fait la force de ces images, c'est que d'une certaine manière, elles portent en elles une certaine innocence. Elles ont été faites sans but, sans objectif, et c'est ça qui est attractif, qui est attirant, et je pense que ça se ressent dans les images, que j'ai pas essayé d'inclure une narration, j'ai pas essayé de faire quelque chose avec. Elle était simplement là, elle existait, et je l'ai capturée. Et pour ces images de Russie, donc ça a été, j'ai tourné à Leningrad en 89, donc juste avant la chute de Gorbatchev. Et en fait, je trouve qu'il y a des rues de Leningrad qui ressemblent à des rues de Santiago. Je reconnais la petite église, le petit magasin, qui sont comme dans mon quartier. Et donc, quand je passe de ces images de ce quartier, de mon quartier, aux images de Leningrad, ça rapproche aussi. Et petit à petit, j'ai compris que ces images allaient pouvoir rentrer dans mes films. Et j'ai énormément d'autres images. Je sais qu'un jour, elles rentreront dans mes films aussi.
Une question? Oui, madame.
Si, me preguntaba y si tiene usted actualmente proyectos en mente o en construcción. Y también quería saber si la situación chilena, digamos, muy efervescente actualmente, si está influyendo o no su práctica cinematográfica, como su creación en general es, está muy a la escucha del entorno político, social. ¿Qué pasa actualmente?
Solamente lo voy a traducir. Donc, je voulais savoir si vous aviez d'autres projets que vous étiez, sur lesquels vous étiez en train de travailler, et si, comment est-ce que la, dans vos œuvres, vous êtes très à l'écoute de la situation politique du Chili, et en ce moment, elle est plutôt effervescente. Donc, je voulais savoir comment est-ce que ce contexte politique actuel influence ou pas votre travail.
Bueno, la situation, sí, está effervescente. Porque está la convención constituyente, la asamblea constituyente está ya escribiendo la nueva constitución. Y eso es maravilloso. Digamos, define un futuro para Chile mucho mejor. Porque será sobre la base de una constitución verdaderamente democrática, y eso es tiene a todo el pueblo muy vivo, atento a lo que está pasando ahí, y a mí también. Pero toda esa efervescencia y lo que ocurre social y políticamente en el día a día de Chile no me afecta directamente para hacer películas. No tiene nada que ver. Son cosas que van por caminos distintos.
Donc oui, la situation aujourd'hui au Chili est vraiment effervescente, puisque actuellement il y a une assemblée constituante qui est en train de rédiger la prochaine constitution, la nouvelle constitution, et ça c'est vraiment merveilleux. Ça nous promet un futur plus lumineux pour le Chili, et on aura une constitution véritablement démocratique. Et je suis évidemment, je vis pleinement et je suis très attentif à tout ce qui se passe dans la politique de mon pays. Mais justement, je pense que ce quotidien, ce qui se passe au jour le jour, ça n'impacte pas, ça n'affecte pas mon cinéma, parce que c'est deux choses très différentes. Être en politique et faire des films, c'est deux chemins très différents.
Ah, sí, estoy ahora haciendo dos películas. No sé si tenga que contarlas. Más o menos una es un personaje belga que fue a Chile en 1889, contratado por el gobierno para construir el ferrocarril en la Araucanía. Él escribió un diario y la película está basada en el diario. Esa es una. Y la otra es... esa película se llama Notas para una película.
Donc, oui, en ce moment, je travaille sur deux projets de films. Mais je ne sais pas si je devrais vous en parler. Bon, je vais quand même vous en parler un peu. Le premier projet sur lequel je travaille, c'est sur un personnage, un Belge, qui est venu au Chili en 1889, engagé, payé par le gouvernement chilien pour construire le chemin de fer. Et il avait un journal, et donc c'est une adaptation de ce journal. Et ce film-là s'appelle Notes pour un film.
Une dernière question, un commentaire, monsieur ?
Bueno, lo felicito, señor, porque sus películas son muy interesantes. Yo soy chileno y mi abuelo, el abuelo de mi madre, llegó a Chile para construir los puentes del sur de Chile, pero a partir de Temuco al sur, y está su nombre, Clemón. Claro, están todos muertos y cuentan que llegó por un contrato con los con el Chemin de Fer Français, por la compañía ferroviaria chilena que extendía hasta Puerto Montt. Tal vez puede servirle por ahí para su película.
Vous voulez vous traduire? Non. Donc du coup, je vous félicite pour votre œuvre qui vos films m'ont beaucoup plu. Et moi, je suis chilien et en fait, le grand-père de ma mère, donc mon arrière-grand-père, est arrivé au Chili pour construire les ponts au sud du Chili. Et il était engagé par les chemins de fer français. Donc si ça peut vous intéresser pour vos recherches, on peut discuter.
Je vous propose donc d'en rester là. On va vivement remercier Ignacio pour sa présence durant toute cette semaine. Ça a vraiment été un grand moment, je pense, de l'histoire du festival. Et merci beaucoup pour tes films et ta générosité. Merci beaucoup.
Muchas gracias a ustedes por su asistencia, a Nicolás por su mirada sobre las películas, bueno, y porque me invitó, ¿no? Muchas gracias, ha sido una experiencia muy buena para mí y muchas gracias también a las traductoras, entre las cuales Muriel, ha sido muy importante y muy buena.
Et moi je voulais vous remercier vous aussi pour votre présence et remercier Nicolas et le festival pour leur regard sur mon film, sur mes films et pour m'avoir tout simplement invité aussi. Ça a été vraiment une très très bonne expérience pour moi cette semaine et je voulais aussi remercier toutes les traductrices du festival et en particulier Muriel avec qui m'a accompagnée cette semaine et voilà, merci.